France Culture.
À voix nue, cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Yasmina Reza, figure importante du monde des arts depuis un quart de siècle et jouée dans le monde entier. Couronnée par un Molière de l'auteur en 1987, dès sa première pièce, Conversation après un enterrement, elle triomphe quelques années plus tard avec Art et devient le premier auteur non anglo-saxon distingué par un prestigieux Tony Award. En 2010, Le Dieu du Carnage lui vaut un nouveau Tony Award et une adaptation cinématographique signée Roman Polanski. Cette série d'À voix nue lève le voile sur une artiste qui se prête très peu à l'exercice de l'entretien, et c'est d'ailleurs le sujet de sa dernière pièce, Comment vous raconter la partie. Cinquième et dernier entretien, se sauver de la vie.
J'aurais envie, Yasmina Reza, pour ce dernier entretien de cette série d'À voix nue, de repartir peut-être d'un clin d'œil à Marguerite Duras. Il y a La vie matérielle, qui est le titre d'un de ses livres. Un beau livre pour parler un peu de choses qui peuvent apparemment paraître sans noblesse, des choses dont on ne parle pas nécessairement dans les entretiens avec des artistes à la radio. Et si j'ai eu cette envie, c'est en souvenir d'un échange qu'on a eu sur cette antenne il n'y a pas si longtemps que cela, où, comme le personnage de Nathalie Oppenheim dans « Comment vous raconter la partie », vous m'avez dit que ce serait peut-être parfois plus important de parler de la façon dont on est habillé, que ce serait peut-être plus intéressant que de parler de passion, pour faire référence à notre entretien précédent, qu'employer ces grands mots, évidemment, est très compliqué, et se dire peut-être effectivement que choisir une robe, tout d'un coup l'essayer, que cette robe épouse votre silhouette de telle ou telle façon, ça peut changer une journée ?
Moi, je pense que c'est très important, l'habit, parce que c'est la façon dont on décide de se montrer. Et on ne se montre pas. On fait une émission qui s'appelle À voix nue. Et c'est à voix nue d'une certaine façon, mais c'est une nudité choisie. Je réponds comme je veux et je me présente comme je veux. Comme je veux, c'est-à-dire pas nu. Parce que dès lors qu'on ne s'avance pas nu, on s'avance avec une panoplie qui est celle de notre choix et qui dit long. L'habit fait le moine sur nous, qui compense aussi des choses. Si vous êtes malade, il est peut-être mieux de se montrer élégant et maquillé. C'est pas neutre. Si vous êtes malade et que vous choisissez de vous montrer en malade, si vous pouvez, j'entends bien, hein, je parle de... Et que vous choisissez de vous montrer délabré, c'est que vous dites autre chose au monde que si vous décidez de ne pas le montrer. L'habit, c'est quelque chose qui quelquefois, à mes yeux, dit plus que n'importe quelle parole qui est très mensongère. L'habit, c'est comme vous, c'est l'ombre que vous projetez toute la journée, très important.
Mais là, vous me répondez sur le rapport aux autres, mais sur le rapport à soi-même. C'est-à-dire que quand même, le matin, il y a ce moment où il faut choisir ses habits, peut-être se regarder dans un miroir et se dire « Oui, je peux aller affronter le monde, mais c'est d'abord quelque chose qui est un rapport entre vous et vous. »
Oui, mais la garde-robe, quand on ouvre son armoire, on a déjà acheté la garde-robe. Donc là, c'est des choix d'humeur, c'est un peu différent. Ce qui se présente dans l'armoire, si on a eu les moyens de pouvoir s'acheter des habits, hein, c'est pas des gens qui choisissent pas leur façon de s'habiller pour d'autres raisons, mais si on peut avoir eu un certain choix, c'est vous appartient déjà en configuration.
Mais dans la boutique, alors, qu'est-ce qui fait qu'on prend telle robe plutôt que telle autre ?
Il faut s'intéresser à ça déjà. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas, qui vont juste choisir la robe parce que ça mincit un peu, parce que c'est discret, parce que c'est noir, parce qu'il faut bien changer de robe parce qu'elle était limée. Il y a beaucoup de gens comme ça, moi j'en connais, hein, hommes et femmes, pour qui c'est barbant, pour qui c'est pas une grande priorité. Mais ça aussi, ça raconte beaucoup. Moi j'ai toujours dit, dans mes textes. Hein. C'est pour ça que je me cite pas moi en tant que parlant. Je le dis dans les textes par la voix de certains personnages, et je crois que je l'ai dit plusieurs fois, la frivolité nous sauve, la robe nous sauve. Parce que tout à coup, on s'habille, en s'habillant autrement, on se voit autrement dans la glace, on se projette au monde autrement, on peut récupérer un peu d'illusion. C'est ça qui est important. Alors vous allez me dire, comme une fois quelqu'un m'a dit, je fais maintenant, allez, pour la dernière séance, je fais question et réponse.
Je vous écoute.
Ça, vous pouvez vous reposer, je fais tout. Un jour, j'étais interviewée par une journaliste italienne il y a des années, et la première question qu'elle m'a posée, je ne connaissais pas du tout la fille, elle m'a dit, j'ai un peu regardé vos textes, enfin elle avait beaucoup travaillé, et vous employez tout le temps le mot « sauver ». Comme je viens de dire, l'habit nous sauve. Pourquoi ? Vous sauvez de quoi ? Ben, sauver de la vie. C'est ce que je lui ai répondu. La robe, la nouvelle robe que j'achète dans un magasin, si je suis d'humeur à l'acheter, si j'ai de la joie à l'acheter, ce qui est le cas, sinon j'y vais même pas, eh bien, me sauve de la vie pendant X temps, au même titre qu'une phrase réussie. Mais pas moins. Je mets pas tellement de différence. Parce que pour moi, l'activité de l'écriture, c'est me sauver de la vie. C'est absolument rien d'autre. Je n'ai, par exemple, pour reprendre le mot passion sur lequel vous aviez voulu me faire parler, je dirais jamais que j'ai la passion de l'écriture. Au bout du compte, je m'en fous. Mais c'est ma canne, c'est ma béquille. Je ne sais pas faire autre chose. Ça me permet de vivre, ça me permet de survivre. Produire de l'écriture, puisque c'est mon métier et ma destinée maintenant, je peux dire, eh bien, ça m'a permis de vivre. Et plutôt heureuse, parce que j'ai eu la chance de pouvoir avoir une adéquation avec cette production. Mais je ne mets pas ça plus haut. Je ne mets pas ça plus haut du tout, du tout. Une fonction thérapeutique pour supporter la vie. De la même façon, les fringues. De la même façon, écouter une musique. De la même façon, tout ça, c'est des recours. C'est des recours.
Mais alors, de quoi vous vous foutez pas, au fond ?
Non, je me suis mal expliquée. Je m'en fous pas d'écrire. Mais
au bout du compte, avez-vous dit ?
Précisons, je me fous pas d'écrire, puisque j'en ai besoin, puisque ça me sauve. Mais je me fous d'être un écrivain. Je me fous de ce que j'ai produit, ce qui d'ailleurs est faux. Non, c'est pas vrai. Mais c'est un peu vrai aussi. C'est-à-dire, j'y attache un prix, justement, comme à une robe. J'aimerais pas qu'on découpe une de mes robes. Donc j'aimerais pas qu'on altère une de mes productions. Mais je me prends pas au sérieux avec tout ça. Je prends pas ça très au sérieux. Et je vous assure que c'est vrai. Par exemple, si je suis en cours d'écriture, une après-midi, puisque j'écris plus volontiers l'après-midi, et que une chose importante affectivement se présente, mais dans la minute, je vais laisser l'écriture. C'est très secondaire. Tout ce qui va me convoquer émotionnellement ailleurs va être supérieur à l'écriture.
Oui, retrouver un ami, une amie, un amoureux, ça passera de toute façon avant.
Retrouver un amoureux passera absolument avant. Il n'y a même pas de question là-dessus.
Alors, vous disiez, tiens, écrire l'après-midi, ça veut dire qu'il y a quand même des rituels autour de l'écriture ?
Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça, j'aime pas ça non plus. Mais non, comme je ne prends pas au sérieux, je ne vais pas aller après créer tout un... fais sérieusement la chose.
Il n'y a pas de cérémonial.
Non. D'ailleurs, je peux écrire à peu près n'importe où.
Pas de mise en condition.
Non, pas du tout. Pas du tout. Mon téléphone est ouvert. Je ne demande qu'à être dérangée.
À être sauvée autrement.
Oui, bien sûr. Voilà, je ne demande qu'à être sauvée autrement. Et je l'ai toujours pensé, ça. Et plus ça va, plus je le pense.
Alors, tiens, plus ça va, plus je le pense, puisqu'on parlait des habits, on parle du corps, on peut parler du vieillissement aussi. Et remarquez que Vous avez longtemps écrit des personnages beaucoup plus âgés que vous.
Oui.
Il semble quand même qu'aujourd'hui, vos personnages aient plutôt votre âge.
Attention.
Plus ça va, Yasmina Reza.
Bah oui, bah parce que sinon, il me resterait que des vieillards kakoshim. Bah, à un moment donné, moi, avançant en âge, malgré moi, sans le vouloir, sans l'avoir décidé, ni même voulu, je suis obligée de constater que l'humanité est plus jeune que moi, maintenant. Donc, je suis obligée de me reconvertir, de retrouver des personnages plus jeunes que moi. En plus, je pense que le fait d'avoir eu des enfants, ça joue. Mes enfants, maintenant, sont plutôt adolescents. Enfin, ils sont adolescents. Ils sont... Même ma fille est une jeune femme. Je vois une aspiration en eux que moi, jeune, je ne m'intéressais pas du tout. J'aurais jamais pu... j'ai jamais écrit sur un adolescent jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais le faire.
Et qu'est-ce qui vous intéressait dans vos personnages âgés quand vous-même étiez plus jeune? Vous pensiez que c'était que la sagesse, c'était justement de pouvoir envoyer paître les conventions, c'est-à-dire que une fois qu'on avait passé un certain âge, on peut avoir des coups de folie. C'était un peu ça quand même l'idée.
Alors, ça, pour certains personnages, ça donne une grande liberté quand les personnages sont au-delà du social. On résolut la question du devenir. Ça donne des personnages très libres, comme une désolation, comme le personnage d'Avner dans La traversée de l'hiver. Ça, oui. Mais je pense aussi que l'écriture étant expérimentation de choses qu'on ne vit pas, c'est ça a toujours été pour moi, le temps étant un thème majeur courant dans les trois quarts des textes. Maintenant, j'hésite à dire le mot œuvre. Un jour, je me suis entendue dire dans un entretien le mot œuvre et j'ai eu tellement horreur d'entendre ce mot que je cherche maintenant des synonymes plus raisonnables. Mais quelquefois, ça ne me vient pas. Donc, c'était une sorte de projection, d'expérimentation. C'est des égos expérimentaux. C'est une formule de Kundera que je trouve très juste. Et se mettre un peu dans la peau de gens plus âgés, je sais pas, ça enlève un peu la peur. On écrit avec ses peurs aussi, on écrit avec ses terreurs, on écrit avec des choses obscures. Et... difficile d'expliquer ça.
Et vous dites que maintenant, donc, vous allez pouvoir écrire sur des personnages plus jeunes que vous. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir projeter en eux, justement? Puisqu'ils sont à l'autre bout de la vie de ces personnages très âgés que vous écriviez il y a quelque temps déjà.
Je ne sais pas encore.
C'est une envie? C'est de se dire, tiens, ces personnes-là m'intéressent et ne pas savoir ce que vous allez en faire? Ou ce qu'ils vont être chez vous?
Oui, je sens cette possibilité maintenant d'explorer des personnages très jeunes, d'une vingtaine d'années, avec la distance inverse, et par conséquent d'explorer qui j'étais, que j'aurais jamais fait quand il y avait trop de proximité d'âge.
Oh, mais c'est plus du tout la même chose, c'est-à-dire là vous allez parler d'un âge que vous avez connu, ou autrefois vous parlez d'un âge que vous n'avez pas encore connu.
C'est pareil.
C'est pareil?
Ouais.
Mais en quoi c'est pareil?
Mais parce que, comme je vous disais, pour Émilie Bonté, je pense qu'on sait tout. Et que ce qu'on sait le moins bien, c'est ce qu'on est en train de vivre. On sait, c'est pas du tout difficile de créer un personnage qui n'a pas votre âge, qui a déjà parcouru sa vie. C'est très facile. On sait. L'écrivain sait, il y a vraiment on a une lunette spéciale. Pourquoi on sait, je n'en sais rien, hein. Je ne sais pas pourquoi on... Mais à mon avis, tout écrivain un peu sérieux se met au travail parce que justement, il a ça en lui, d'avoir tous les âges. Et l'âge qu'on a le moins, c'est celui qu'on a. Parce que c'est difficile d'envisager le présent, c'est très très difficile. Et en fait, il n'y a que le présent qui est réel. Mais c'est ça, là, on manque de distance avec son propre présent. On est envahi par la question de soi-même. Donc, c'est très difficile d'envisager le présent. Et moi, j'aurais jamais pu écrire. Je suis même étonnée que des gens le fassent, et parfois extrêmement bien. des adolescents le font. Moi, j'aurais jamais pu, à l'époque où j'ai commencé à écrire, traiter des questions de mon âge, c'était inenvisageable. Je me serais ennuyée à périr. Je l'aurais mal fait.
Mais grâce à vous, je comprends, effectivement, beaucoup de choses sur les personnages. Et du coup, ça m'amène à me demander si vous pensez parfois à vos personnages, comme on peut penser à des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps ou à des membres de sa famille. Est-ce qu'il y a des... Voilà, est-ce que vous pensez aux personnages de conversation après l'enterrement, ce qu'ils ont pu devenir, ce qu'ils peuvent vivre en ce moment? Est-ce qu'il y a des pensées comme ça qui peuvent vous traverser, Yasmina Reza?
C'est curieux, le personnage. C'est que c'est quelqu'un avec qui on vit vraiment tant qu'on écrit sur lui. Et puis qui vit quand on le voit interprété. Et donc il existe, hein. Mais en même temps, il est pas soumis au temps. Donc il est, on ne peut pas y penser, parce qu'on ne peut penser qu'aux gens à travers le temps. Il meurt pas. Donc il n'est pas très intéressant en réalité.
Parce qu'il vit au présent du récit.
Et oui.
À l'éternel présent du récit.
Oui. Donc il est intéressant dans sa fiction qui a été dévoilée. Donc sur le moment de cette fiction, il est passionnant. Mais enfin, pour être honnête, il m'est arrivé de penser beaucoup à des personnages de fiction des autres. Ce qui prouve peut-être ma grande limite personnelle, ou alors peut-être qu'un auteur ne pense pas à ses propres personnages. J'aimerais mieux que ce soit la deuxième solution, et ce qui voudrait dire que j'ai pas créé des gens complètement sans chair. Mais c'est vrai qu'il y a des personnages de la fiction qui ont rempli ma vie, qui ont compté.
Comme?
Bah, j'ai dit Heathcliff, mais je pourrais dire... Alors tout de suite, là, quand on dit je pourrais dire, rien ne vient.
Rien ne vient, toujours pareil, c'est normal.
Mais pourtant, en m'appliquant, je sais profondément qu'il y en a. Si, des personnages de Tchekhov m'ont énormément marqué. Le personnage dans Oncle Vania, de la fille qui reste, je crois que c'est Sonia, que j'aurais adoré jouer, par exemple. Des personnages, non, il y en a plein et aucun ne me vient là tout de suite.
Sonia vous est venue. Et si je reprends sur cette idée d'avancer en âge, effectivement de pouvoir tout envoyer paître, parce que voilà, la vie a passé. J'ai le sentiment que si vous vous intéressez à ce type de personnage, c'est que depuis le début, il y a quelque chose comme ça en vous, que vous... Je vous imagine pouvant tout envoyer balader très facilement. Est-ce que c'est le cas?
Ça dépend quoi?
Justement, une vie sociale, une position, une... Vous n'êtes pas dans le rôle de l'écrivain, comme on l'a en France. Enfin, vous n'êtes pas dans les... Vous pourriez être éditeur, écrire dans les journaux. Ça ne vous intéresse pas, ça?
Ah, ça m'intéresse
pas. Vous en fichez complètement?
Alors ça m'intéresse, mais pas du tout. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que je pourrais tout envoyer balader. C'est très... Il faut être honnête. Hein. Je pourrais répondre oui, je peux tout envoyer balader. J'aimerais me vivre comme ça. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui est vrai, c'est que j'ai tout le temps, tout orienté vers la liberté. Tant que faire se peut, parce que ce n'est pas facile. Mais je peux dire, avec le recul, et là, je peux vraiment le dire... sans problème, je n'ai jamais rien fait que je n'ai pas envie de faire. J'ai écrit ce que je voulais écrire, rien d'autre, mais même un article. Jamais tout a été voulu par moi, désiré par moi. Ça, c'est une grande chance d'avoir pu faire ça, hein, parce que s'il n'y avait pas eu la possibilité de le faire financièrement, je n'aurais pas pu. Donc ça s'est bien organisé pour que je puisse le faire. Mais même, ça ne suffit pas. Moi, je vois des gens qui n'ont pas besoin de le faire et qui le font parce qu'ils veulent exister socialement. Ça, c'est complètement en dehors de moi. Ça, je m'en fous complètement. Mais est-ce que je pourrais tout arrêter, faire complètement autre chose? Je ne suis pas sûre. Parce qu'au profit de quoi? Qu'est-ce qui me ferait vivre? Moi, j'ai pas trouvé le sens de la vie du tout. Je sais pas pourquoi chaque jour on se lève et on doit produire et on doit fournir et on doit être quelqu'un et on doit briller. Quand les gens me disent « écrivez, ça fait longtemps, on a besoin de vous lire, on a besoin », c'est très gentil, mais ça me parle pas. J'ai jamais pensé que je changeais la vie de qui que ce soit. J'ai jamais pensé que je faisais ça pour les autres. Je fais ça pour moi, pour, encore une fois, pour me sauver. Donc, chaque matin, je me dis, il faut que tu te sauves. Et comment ? Je ne connais qu'une seule façon de le faire, c'est-à-dire en produisant quelque chose qui va être satisfaisant pour moi et éventuellement pour les autres. Je ne connais pas. Ou en aimant quelqu'un qui va me le rendre, ou en m'amusant, tout simplement. Mais envoyer tout balader, je ne sais même pas très bien ce que ça veut dire. Au profit de quoi ? Voilà. C'est, vivre n'est pas simple. Trouver un moyen d'être... de vivre un peu sereinement, pour ne même pas dire... je ne dis pas gaiement, moi je suis très gaie dans la vie, donc la gaieté est sans cesse présente, mais un peu heureux, qui est quand même une ambition énorme, un peu heureux, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Et quand je dis sauver, c'est-à-dire sauver d'une sorte de... pas de mélancolie, ce serait le mot fort, mais... sauver d'un désenchantement ou d'une tristesse qui est jamais vraiment loin. Ben, on le voit dans ce que j'écris. C'est pas de première gaieté, au fond, de ce que j'écris. Même si c'est drôle. Mais c'est cette drôlerie comme chez Bernard. Par exemple, Thomas Bernard, c'est extrêmement drôle, Thomas Bernard. Il n'y a rien de plus sinistre. Moi, je l'adore.
Et moi donc.
Voilà. Mais c'est sur une grande proximité. C'est des gens qui sont cinglants, qui sont drôles, qui sont cassants, qui sont sarcastiques, qui sont gais, mais qui sont sinistres. Moi, je me sens une proximité avec ça.
Mais se sauver, ça veut dire que, après tout ce qu'on vient d'entendre, Yasmina Reza, c'est-à-dire se sauver d'aller se jeter dans la Seine. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on fait les enfants ? Pourquoi on vit ? Enfin, pardon d'être aussi dans la sorte de trivialité dans ce que je dis, mais c'est vrai. Enfin... la vie est terrible, qu'est-ce qui vaut la peine de la vivre ? Alors on en revient à la question de la passion, à la question de l'amour, à la question...
Mais... Il y a plein de choses qui sont merveilleuses et qu'on vit. Mais au fond, on est enfermé en soi. Donc rien ne vous... Les enfants, on les fait pour soi. On ne fait pas des enfants pour les enfants, on les fait pour soi. On fait parce qu'on veut vivre ça. On veut... c'est une possibilité merveilleuse de la vie, et pour rien au monde, on la raterait. Enfin, pour ceux qui ont envie de le faire. Moi, j'avais très envie d'avoir des enfants, ça a été vraiment une grande joie, et elle persiste. Mais pour autant, je sais profondément et heureusement pour eux qu'ils ne s'appartiennent qu'à eux, qu'ils n'appartiennent qu'à eux. Ils ne m'appartiennent pas, ils sont des gens totalement indépendants, ils ne me doivent rien. Il y avait une phrase que m'a dit quelqu'un un jour, il m'a dit « ça tient pas aussi chaud qu'on croit, les enfants ». Mais c'était il y a longtemps, moi mes enfants étaient petits, et lui parlait d'enfants grands. Et j'ai noté cette phrase, je crois même que je lui ai piqué dans une désolation. Et c'est vrai ça, pas parce qu'eux ne sont pas sympathiques et chaleureux, c'est parce qu'on sait qu'ils sont à eux, qu'ils s'appartiennent à eux et pas à vous. D'ailleurs, aucun être ne vous appartient. Donc tout ça, c'est des moments. Ça crée des moments merveilleux, des moments de joie, mais la condition humaine totalement ignorante de sa propre condition, c'est quand même quelque chose de difficile à supporter tous les jours quand on réfléchit un petit peu.
Alors, je promets une question frivole, donc il faut que j'y revienne, Yasmina Reza, mais puis on voit bien qu'aucune question frivole ne l'est véritablement, mais qu'est-ce que vous préférez faire de vos journées, en fait ?
J'ai pas de préférence. Non, j'ai pas de préférence parce que mettez-moi en montagne, je vais vous dire, je vais préférer mettez-moi en montagne un grand jour de beau temps et de chaleur. Vous me verrez en chaussures de marche, en short, sac à dos et pique-nique au bord d'un torrent. Et il y aura strictement rien de mieux au monde. Il y aura rien de mieux. Donc voilà, ça c'est une possibilité de journée merveilleuse. Une autre journée où j'aurai écrit une page qui aura gré à mes yeux est une autre forme de journée merveilleuse. Et puis des choses plus intimes que je ne vais pas vous dire. Mais voilà, il n'y a pas de journée type.
Mais au-delà de la journée type, quand même, peut-être finir là-dessus, parce que ça m'intrigue depuis le début, c'est la marche en montagne. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce plaisir-là, Yasmina Reza ? C'est quoi ? Alors, on en revient à la question du corps ?
Oui, parce que c'est un plaisir physique. C'est un plaisir qui est... c'est proche du yoga. C'est proche des choses qui font qu'on s'oublie soi-même. Voilà, je pense que la grande valeur de ce que le monde peut vous apporter, c'est les moments où on s'oublie soi-même. Soit en écoutant de la musique, soit par un exercice physique qui apporte une joie profonde bien plus haute que soi, la vue de paysages magnifiques, la vision d'un spectacle complètement réussi. Encore que ça, c'est plus ambigu, parce que souvent, la vision d'un spectacle réussi, et Dieu sait que j'en ai vu dans ma vie qui m'ont transporté, vous renvoie à vous-même. C'est la fonction même de l'art. Donc l'art a pas la fonction de vous faire oublier qui on est. Tandis que la nature, oui, et d'autres choses aussi, oui. Ce sont les choses supérieures qui vous font vous oublier. C'est ça que moi j'attends le plus en fait. C'est de me mettre en position d'abandon.
Et l'expérience de la marche, on peut l'écrire. On peut la transmettre par des mots.
Alors, il y a des écrivains qui l'ont fait. Nietzsche l'a fait, un écrivain suisse dont tous les noms m'échappent aujourd'hui dans cet entretien. Il y a un livre superbe sur la marche de cet écrivain suisse. Bon, je ne le retrouverai pas sur le champ. Mais c'est difficile. Bernard l'a fait. Il a même écrit un texte qui s'appelle « Marcher ». Et moi, je ne sais pas parler de ça. Je sais pas, et d'ailleurs, pour être honnête, je sais pas parler des trucs physiques. Je le fais pas bien. Je l'ai jamais fait. J'ai même écrit dans un texte des sentiers qui tournent, que j'aime, des gravillons, tout ça, je ne sais pas parler. Et c'est vrai, je ne sais pas le mettre en mots. D'ailleurs, probablement que ça, j'ai pas besoin de le faire. Si je sais pas, c'est que j'ai pas besoin de le faire.
Besoin de le vivre, donc pas besoin de l'écrire?
Ah,
enfin, je ne sais pas si le don qui est...
Si. C'est tellement vrai, ça.
Oui.
Ce qu'on a besoin de vivre et qu'on peut vivre, on n'a pas besoin de l'écrire. Ce qu'on écrit, c'est dans le creux de ce qui a été soit pas vécu, soit raté, soit inabouti, soit malheureux. En tout cas, ce qui a été pleinement vécu ne peut être écrit.
C'était À voix nue, Arnaud Laporte s'entretenait avec Yasmina Reza. Prise de son, Michel Mestre. Réalisation, Viviane Noël.